Chers auditeurs et chères auditrices, bonjour. Nous continuons notre série « L'importance de la bénédiction ». Nous arrivons à l'étude numéro 3, « L'importance de la bénédiction ». Aujourd'hui, nous commençons par Abraham. Abraham est le patriarche d'Israël et le père des croyants. Dieu lui fait cette promesse. « Je te ferai devenir une grande nation, je te bénirai, je rendrai grand ton nom, tu seras une bénédiction. Par toi se béniront toutes les familles de la terre. » Genèse chapitre 12, versets 2 et 3. La bénédiction ne consiste pas seulement ici dans la fécondité, mais aussi dans l'élection. Abraham est distingué. Il est choisi par Dieu pour devenir l'ancêtre d'un grand peuple. Lorsque je bénis quelqu'un, il se reconnaît comme élu de Dieu. L'élu se sait accepté sans condition. Il se sait voulu par Dieu. La Sainte Bible relie souvent la bénédiction de Dieu avec l'attribution d'un nouveau nom. Abraham, lui aussi, se voit attribuer un nouveau nom. Pardon. La bénédiction créée, elle va créer une identité nouvelle. C'est-à-dire, l'être humain se voit délesté de toute tare ancienne. Dieu lui donne un nouveau nom. Il est entièrement créé par Dieu, modelé, aimé et accepté par lui. Il trouve une identité dans une intense relation à Dieu. Il sait qu'il ne peut pas vivre sans cette relation amicale avec Dieu, relation qui rend sa vie féconde. L'élection signifie aussi que Dieu attend de l'homme quelque chose. Il exige d'Abraham qu'il quitte son pays, sa parenté, la maison de son père, et dans ce départ, il y a une image fondatrice pour chacun d'entre nous. Chaque être humain doit se détacher du passé, de ce à quoi il aime s'identifier. Mais seul celui qui se sait sous la bénédiction de Dieu, peut prendre le risque de ce détachement. En partant, il abandonne tout ce qui était pour lui jusqu'à présent. Une bénédiction, ses biens, sa famille, ses amis et tout ce qui lui est familier. Être sous la bénédiction de Dieu, cela signifie aller notre chemin à l'ombre de la main protectrice de Dieu dans la confiance que Dieu nous renouvellera et conduira notre vie à la réussite. Abraham n'est pas un homme sans défaut, tout comme nous qui sommes aussi bénis en dépit de nos défauts et nos faiblesses. Nous souffrons bien souvent de nos faiblesses. Oui, nous nous sentons déchirés et la bénédiction, elle recoue en quelque sorte les morceaux épars. Ainsi, je te souhaite de te reconnaître béni et élu par Dieu. C'est merveilleux cela. Que la bénédiction de Dieu réunisse en toi tout ce qui menace de se déchirer. Que Dieu te bénisse pour que tu puisses aller ton chemin en pleine confiance à l'image d'Abraham et en sachant entouré, en te sachant entouré, en te sachant protégé par Dieu. Alors tu seras une bénédiction, dit Dieu à Abraham. Et voilà donc la déclaration la plus belle que l'on puisse faire à un être humain, être une bénédiction pour les autres et devenir une source de bénédiction pour eux. Nous disons souvent de quelqu'un qu'il est une bénédiction pour sa communauté, pour son entreprise, même pour son village. De certains enfants, nous disons qu'ils sont une bénédiction pour leur famille. Et par là, nous entendons que ces enfants ont en eux, ils ont en eux quelque chose qui fait du bien à leur entourage. Ils émanent d'eux une sorte de rayonnement. Ils sont donc une source de paix. Ils sont porteurs d'une pureté qui fait la joie de tous. Toute communauté a besoin de personnes qui soient une bénédiction pour elle et aucune ne peut subsister sans elle. En disant d'un adulte qu'il est une bénédiction pour son entourage, eh bien nous pensons à son influence positive. Il est porteur, elle est porteur d'espérance pour les autres. Il ou elle porte plutôt la réconciliation que la division. Il est donc porteur d'idées neuves et les autres bénéficient de son inventivité, de son inventivité ainsi que de sa créativité. Car sans lui, la communauté se disloquerait. Voyez-vous, un homme béni rapproche les hommes et les femmes entre eux. Il transmet, elle transmet la bénédiction qu'il ou elle a reçue. Les amoureux, ils savent que leur partenaire est une bénédiction pour eux. Ils s'épanouissent mutuellement auprès de l'autre. Et ils apprennent à s'accepter eux-mêmes et une confiance en soi toute nouvelle se fait jour. L'obscurité fait donc place à la lumière. Le désespoir et la tristesse fait place à l'espoir. Soudain leur vie déborde d'imagination et même de créativité. Les nouvelles idées se multiplient et tout ce qui était figé reprend vie. Beaucoup voient en leur médecin ou en leur thérapeute, en leur accompagnateur spirituel. Ils y voient une bénédiction. Leur fréquentation leur fait tellement de bien qu'ils en perdent leur manque de confiance et cessent ainsi de se déprécier ou de se condamner. Ils s'ouvrent alors à l'espoir qu'ils peuvent eux aussi réussir leur vie. Toi aussi, cher auditeur, et chère auditrice, tu es une bénédiction pour les autres. Dieu t'en juge absolument capable. Et pour cela, tu n'as rien à faire de particulier. Il te suffit d'être toi-même tel que tu es dans ta singularité. Eh bien, tu es une bénédiction pour les autres. Cesse donc de te déprécier et sois reconnaissant, reconnaissante d'avoir été élue par Dieu pour être une source de bénédiction pour les autres. Nous arrivons à la bénédiction nocturne de Jacob. La Bible raconte un épisode étrange, celui de la bénédiction que Jacob reçoit d'un homme avec qui il a lutté toute la nuit. Alors qu'il était jeune, Jacob avait usurpé la bénédiction qui revenait à son frère aîné. À son frère aîné, vous rappelez-vous, Ésaü, suscitant ainsi la colère de ce dernier. La bénédiction apparaît ici comme quelque chose de tangible, quelque chose qu'il n'est pas possible de donner deux fois. Jacob, recevant la bénédiction du premier-né, prend l'avantage sur son frère. Tout semble donc réussir à Jacob. Il revient chez lui, au milieu de nombreuses richesses, entouré de ses deux femmes et de nombreux enfants. On lui annonce un beau jour qu'Ésaü vient à sa rencontre. Jacob prend peur. Ésaü symbolise en quelque sorte l'ombre de Jacob. Et Jacob doit affronter son ombre afin que sa vie devienne vraiment une bénédiction. C'est ce que la Sainte Bible nous donne à découvrir dans l'épisode de la lutte de Jacob avec un homme que l'on présentera comme un ange envoyé par Dieu. Le combat dure toute la nuit sans qu'aucun ne remporte la victoire. Au lever du jour, l'homme, on pense que c'était quand même un ange, évidemment, cet ange demande à Jacob de le lâcher. Jacob réplique, « Je ne te laisserai pas partir, que tu ne m'aies béni. » Genèse chapitre 32, verset 27. Jacob se bat pour une bénédiction, montrant par là que la bénédiction de Dieu est pour lui une question de vie ou de mort. Donc Dieu bénit lui-même Jacob et lui attribue un nouveau nom. Dieu dit, on ne t'appellera plus du nom de Jacob, le trompeur, mais on t'appellera maintenant Israël, car tu as lutté avec Dieu. Genèse chapitre 32, verset 29. Que ce qui présente un danger pour moi et me fait obstacle soit une bénédiction est un paradoxe, car Dieu n'apparaît pas à Jacob comme étant celui qui veut le bénir, mais comme celui qui le remet en question. Oui, qui se met en travers de son chemin. Et d'un point de vue psychologique, il s'agit là de la rencontre de l'ombre. Ayant, avant que Jacob puisse se réconcilier avec Ésaü, eh bien son frère, il doit d'abord rencontrer l'ombre. C'est une métaphore, évidemment. Il doit rencontrer l'ombre dont il est porteur, c'est-à-dire le côté trompeur, le côté faux et mensonger de sa propre vie. Et c'est justement la rencontre avec cette ombre qui devient une bénédiction. la vie de Jacob en est renouvelée. Non seulement il se réconcilie avec Ésaü, mais il deviendra aussi un patriarche d'Israël. Nous nous imaginons que nous recevons la bénédiction de Dieu lorsque tout réussit, lorsque tout nous réussit. Mais l'épisode de Jacob, elle nous montre que nous trouvons cette bénédiction au moment où nous n'en pouvons plus, où nous nous trouvons en quelque sorte face à nous-mêmes, et cela dans la douleur. Nous nous trouvons face à notre mensonge, face à notre refus devant la vie, face à notre égoïsme. Et évidemment, tout se trouve en quelque sorte sans borne. Voyez-vous, lorsque nous nous acceptons tels que nous sommes, alors même nos défauts peuvent devenir une source de bénédiction. Dieu ne bénit pas la perfection, mais il bénit l'imperfection. On a toujours pensé que nous devons être parfaits pour que Dieu puisse nous bénir. Pas du tout. Il a surtout cherché et racheté ceux comme moi qui étaient totalement perdus. Dieu ne bénit pas la perfection, je répète, mais l'imperfection, pas ce qui est entier, mais ce qui est déjà un peu déchiré. Voyez-vous, par la bénédiction, le rameau coupé refleurit et la nuit laisse la place au jour. Dieu te bénit même là où tu te sens en échec, là où tu souffres de tes faiblesses, là où tu te sens pris dans l'obscurité. Ne renonce donc pas, jamais, même si tout te paraît sans issue, même si tu es fatigué du combat et que tu préférais l'abandonner, comme Jacob, qui s'entête dans ce combat nocturne, eh bien dit, « Je ne te laisserai pas partir que tu ne m'aies béni. » Chers amis, dans le livre du Deutéronome, Dieu place son peuple devant le choix entre bénédiction et malédiction. Il dit, « Oui, je place devant vous aujourd'hui bénédiction et malédiction. La bénédiction quand vous obéirez au commandement de Yahvé, Yahvé votre Dieu, que je vous commande aujourd'hui, et la malédiction, si vous n'obéissez pas au commandement de Yahvé votre Dieu, et si vous vous écartez de la voie que je vous ai prescrite aujourd'hui pour aller à la suite d'autres dieux. » Deutéronome, chapitre 11, versets 26 à 28. Nous pouvons, nous aussi, chers amis, choisir entre bénédiction et malédiction. Lorsque nous nous en tenons au commandement, lorsque nous vivons correctement, nous sommes bénis. Mais lorsque nous agissons contre notre nature, lorsque nous nous laissons conduire par nos instincts et par nos pulsions, alors nous choisissons la malédiction. Dieu sait ce que dit le Deutéronome. Il est dit, « Béni celui qui suit les commandements, et maudit celui qui se détourne du droit chemin. » Et le choix il dépend de nous. La vie, elle portera des fruits et s'épanouira si nous suivons les commandements. Or, si nous nous détournons de Dieu, alors nous serons évidemment dans la malédiction. La malédiction dans l'Ancien Testament, elle correspond toujours à un affaiblissement de la vie. Celui qui est maudit, il se sent rejeté de Dieu et vit loin de Dieu comme de lui-même. Il peut se produire que quelqu'un maudisse quelqu'un d'autre. Et dans le livre des Nombres, il est dit du roi Balak que devant sa peur du peuple d'Israël, il, voyez-vous, il fait appel au voyant Balaam. Oui, il lui demande à Balaam de maudire le peuple d'Israël, pensant qu'une fois maudit, il pourra venir à bout de cet ennemi. Mais Dieu, s'adressant à Balaam, lui dit, « Tu ne maudiras pas ce peuple, car il est béni. » Nombres chapitre 22, verset 12. Voyez-vous, celui que Dieu a béni, eh bien nul ne peut le maudire. Beaucoup de gens se sentent maudits. Dans la langue allemande, maudire se dit fluchen, qui veut au fond dire se frapper la poitrine avec la main. On se frappait la poitrine avec la main pour souhaiter du mal à quelqu'un. Je rencontre souvent des personnes qui ont le sentiment d'être maudits. Si je les interroge, elles peuvent me répondre que leur père, en colère, leur avait crié « Sache que tu n'arriveras jamais à rien, tu ne trouveras pas de mari, tu finiras dans la rue. » D'autres sont affolés parce que quelqu'un leur a souhaité qu'elle allait mettre même au monde un enfant handicapé ou encore d'être stérile. Tout cela vous paraît improbable, mais c'est la vérité. Même si notre raison nous fait dire que ces paroles méchantes sont le fruit de l'amertume ou de la pathologie, eh bien, il est difficile de se défaire de leur pouvoir. Alors, persiste en nous l'intuition que les paroles ne sont pas que des mots, mais qu'elles possèdent aussi une puissance d'action. Elles possèdent, je le répète, une puissance d'action. C'est connu cela. Ou s'il arrive que les personnes maudites se sentent minées de l'intérieur. Elles aspirent à une bénédiction qui dissoudra la malédiction qui pèse sur leur âme. Il ne suffit pas de leur dire que la malédiction est une vue simplement de l'esprit, car elle a trouvé place dans leur âme. Il faut donc une bénédiction très puissante. À ces personnes, il n'y a qu'une chose à faire, c'est de leur imposer les mains par le saint nom de la toute-puissance de Jésus-Christ, afin qu'ils protègent leur âme de la puissance maléfique des paroles étrangères et qu'ils imprègnent toujours plus leur cœur de sa parole de vie. Un jour, une femme qui avait été abusée sexuellement par un prêtre, alors qu'elle était encore enfant, est venue me voir. Oh, il y a fort longtemps de cela. Le prêtre l'avait maudit, affirmant qu'elle allait mourir si elle racontait ce qu'elle avait vécu. Alors elle n'osait plus aller à l'église. Mais dès qu'elle avait franchi le seuil de l'église, eh bien la malédiction la paralysait totalement. Et lorsque je lui ai tendu la main, tout d'abord elle retira la sienne. Elle osa me parler uniquement parce que son ami l'avait accompagnée. Il fallut donc beaucoup de temps avant que sa paralysie cède la place à la confiance et qu'elle puisse exprimer le poids qui accablait son âme. Je lui demandais si je pouvais la bénir et lui imposer les mains, et elle accepta. Et la bénissant, en la bénissant, croyez-moi, j'ai pu sentir que je devais faire passer au second plan mon désir d'aider et mon besoin de me montrer chaleureux. Je dois uniquement me montrer perméable à l'Esprit Saint de Dieu. J'ai donc pris conscience alors que la bénédiction avait besoin de reposer sur la toute-puissance de Dieu. Oui, je bénis en son saint nom, m'appuyant sur la force de la croix où Jésus est venu à bout de toutes les puissances des démons. Alors des images archétypales me viennent à l'esprit comme celle du Christ protégeant la femme de sa puissance. Oui, voyez-vous, dans cette situation, eh bien, je peux comprendre la parole de Saint Paul qui jusque-là me paraissait assez étrangère, selon laquelle le Christ est devenu malédiction pour nous, et ceci afin que nous soyons délivrés, nous, de la malédiction. Notez Galates chapitre 3, verset 13. Peut-être des paroles de malédiction sont-elles gravées au fond de ton âme? Alors, recouvre ces mots, recouvre-les de la parole originelle et dis: tu es mon fils bien-aimé, tu es ma fille bien-aimée, je me réjouis de ta présence. Ou bien prononce dans ton cœur les mots qui sont adressés par l'apôtre Paul à Timothée, qui transmettait ses lettres en disant: grâce, miséricorde, paix de la part de Dieu le Père et de Christ Jésus, notre Seigneur. 2 Timothée chapitre 1, verset 2. Chers amis, les femmes peuvent aussi se bénir entre elles. Et vous allez voir que c'est vrai. Lorsque Marie a rendu visite à sa cousine Élisabeth, cette dernière, elle était emplie de l'Esprit Saint. elle s'écria : Béni es-tu entre les femmes, et béni le fruit de ton ventre. Saint Luc chapitre 1, verset 42. La femme la plus âgée bénit la cadette, et toutes deux sont enceintes. La rencontre que nous décrit Luc dans son évangile est merveilleuse. De par son origine grecque, Luc se montrait sensible à la dignité de la femme et à l'intuition qu'elle avait que la tâche la plus importante était celle de se bénir les uns les autres et de devenir ainsi une bénédiction les uns pour les autres. Souvent, les femmes disent que leur corps est béni lorsqu'elles sont enceintes. Elles connaissent ainsi la grande bénédiction de la création. Les femmes ont développé aujourd'hui de nouvelles formes de bénédiction. Elles se bénissent entre elles. Dans la rencontre entre Marie et Élisabeth, je perçois une dimension de tendresse. Aucune rivalité ici, comme c'est souvent le cas entre hommes. C'est la joie d'être avec l'autre. C'est la capacité de partager la bénédiction de Dieu, valable pour tous, et de s'en réjouir. La bénédiction d'Élisabeth donne à Marie, elle qui est donnée à Marie, la rend elle-même encore plus vivante, et son enfant tressaillit dans son ventre. Elle se sent donc tout à coup remplie de vie. Marie la bénit, alors que c'est la louange du Magnificat. Elle transmet ainsi la bénédiction de Dieu. Bénir, voyez-vous, cela signifie louer Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous. Dieu est la source de toute bénédiction. Et c'est pourquoi, voyez-vous, la louange de Dieu, en tant que créateur et sauveur, elle est faite et elle fait partie de la bénédiction. Et par ce récit, l'évangéliste nous invite à nous bénir les uns les autres. Voyez-vous, Élisabeth avait béni Marie en lui disant des paroles bienveillantes. En grec, bénir se dit eulogain, que l'on traduit en latin par benedicere. Cela signifie de dire du bien. Bénir consiste donc à dire à l'autre, de l'autre ou sur l'autre, des paroles bienveillantes. Élisabeth loue Marie comme étant la femme bénie entre toutes, dans la dignité et absolument inaliénable. Dans la bénédiction, Élisabeth perçoit le mystère de cette femme et de l'enfant qu'elle porte. Ce qu'Élisabeth dit de Marie, cela vaut pour chacun de nous. Chacun de nous est béni, homme ou femme. Nous sommes bénis par Dieu. Nous sommes créés et aimés, chacun comme être singulier. Élisabeth ne se contente pas de louer Marie, mais elle invoque aussi le fruit de son ventre. La bénédiction donnée à Marie s'adresse aussi à l'enfant qu'elle porte en elle. Donc être béni, cela signifie que quelque chose de nouveau peut s'épanouir en moi. Dans les rêves d'enfant, représente toujours quelque chose de nouveau et d'authentique qui cherche, en quelque sorte, à briser en nous ce qui n'est pas nous-mêmes et de dénature ainsi notre être. Voyez-vous, beaucoup souffrent aujourd'hui, il est vrai, de vivre sans que rien de nouveau n'intervienne dans leur vie. Ils se sentent ainsi usés. Ils se sentent prisonniers de l'ordinaire. Sachez qu'être béni comme Marie, cela signifie que Dieu fait s'épanouir en moi quelque chose de tout neuf, qu'il me rappelle l'image originelle et authentique qu'il s'est fait de moi. L'ange dit ceci à propos de l'enfant que Marie va mettre au monde. L'être saint qui naîtra sera appelé fils de Dieu. Saint Luc chapitre 1 verset 35. Notre noyau le plus intime, cette image divine que nous portons en nous est saint. Et dans chacun de nous, il existe une part de sainteté que nul ne peut violer, car ce qui est saint et ce qui est soustrait à la souveraineté de ce monde. Voyez-vous, je répète, dans chacun de nous, il existe une partie de sainteté que absolument personne ne peut violer, car ce qui est saint est ce qui est soustrait à la souveraineté de ce monde. Donc pour les Grecs, seul ce qui est saint peut vraiment sauver. Voyez-vous, l'ange nous dit aussi que quelque chose en nous reste intact et échappe à toute faute. Toi qui écoutes maintenant, si tu entres en contact avec ta part de sainteté, tu pourras apporter le salut aux autres. Tu pourras devenir bénédiction pour les autres, car tu seras béni comme Marie. Je te souhaite, toi qui écoutes, de pouvoir dire oui comme Marie quand Dieu te bénit. Oui, je suis la servante du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole. Saint Luc, chapitre 1, verset 38. Chers amis, nous allons terminer cette étude par la prière. Prions. Entends, Seigneur, entends ma prière, entends mon désir d'être près de toi et de te demeurer dans ta maison. Que tout mon être soit rempli de ta présence. Mais rien de cela n'est possible sans toi, si tu ne me combles pas. Ce sont alors bientôt les murmures et les préoccupations infinies qui me remplissent, me déchirent intérieurement et me détournent de toi. Ô Seigneur, toutes les réflexions à ton propos, tous les enthousiasmes pour les spéculations et les discussions théologiques, toutes les curiosités à propos de la spiritualité chrétienne, toutes les invitations à penser et à réfléchir à la prière et à la malédiction peuvent tout aussi bien être qu'une forme de désir de possession. Je constate chaque jour à nouveau que toi seul tu peux m'apprendre à prier, que toi seul tu peux m'apporter la paix de l'âme, que toi seul tu peux me garder en ta présence. Aucun livre, aucune idée, aucun projet et aucune théorie ne pourront jamais me rapprocher de toi si tu ne transformes pas toi-même tout mon être. Mais Seigneur, permets au moins que je reste ouvert à ton invitation, à ton initiative, et que j'attends patient et éveillé, et tu rétabliras tout ce que l'homme a saccagé par son non-respect et son égoïsme. Oui, Seigneur, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Amen. Amen. Et chers amis, merci pour l'intérêt que vous portez à ces études. Soyez donc bénis, car Dieu vous aime profondément. C'est une réalité. À demain matin, Dieu voulant, pour la suite de cette série. Au revoir, très chers amis.